présent, nos invités, Jean-Paul, Paul Joël Kamchan, qu'on vient de voir dans le reportage et qui nous rejoint depuis Douala. Vous êtes éditeur de la plateforme Data Cameroun qui promeut le data journalisme, le fact-checking et le journalisme. De Dakar, nous avons Sali Boumaran, responsable bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Et depuis Oslo, Samba Djalim Pabadi, journaliste, chercheur et doctorant à l'université Oslomet d'Oslo. Et si on commençait par expliquer les mécanismes de cette désinformation, on revient rapidement sur le cas du Cameroun. Jean-Paul Joël, qu'est-ce qui a fait prendre conscience aux acteurs de la société civile et aux journalistes que c'est le moment d'agir?
Alors, ce qui a fait conscience n'est tient qu'à un petit détail qui est de l'ordre politique et de la gouvernance. Vous savez que le Cameroun est à la croisée des chemins, au crépuscule du régime qui est en place, notamment avec Paul Biya, qui, comme vous le savez, 90 ans, fait l'objet des débats au sein de la société civile, des partis politiques, de l'opposition et même dans les couloirs diplomatiques sur sa capacité à tenir. Et donc derrière, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a comme une sorte de classe qui veut le maintenir au pouvoir pour continuer à diriger le pays et à contrôler l'appareil de l'État. Et donc, dans cette langue, tout est mis sur pied pour justement disqualifier des camps ou des velléités qui se prononceraient en faveur d'une quelconque succession. Et donc, l'une des stratégies trouvées par ce camp, c'est la désinformation et les discours de haine. Pour les discours de haine, ils se développent au Cameroun depuis quelque temps, notamment avec beaucoup de véhémence et d'une façon fulgurante depuis les élections de 2018. Une chasse aux Bamileke, comme on pourrait y appeler, même si je suis de cette partie, pourtant je ne voulais pas défendre Chapelle, mais je voulais rester froid dans l'analyse de ces faits-là. Et de l'autre côté, non, on a donc la désinformation, parce que comme j'expliquais tantôt, alors, comme on a coutume de le dire dans le cadre des différents programmes que nous développons dans le cadre de la lutte contre la désinformation, c'est qu'il y a une corrélation entre le discours de haine et la désinformation. Et donc les deux pendant font en sorte c'est que la classe qui veut continuer à maintenir Paul Biya au pouvoir pour contrôler l'appareil de l'État, surfe justement sur la désinformation pour essayer de contenir, parce que comme vous le savez, qui détient le pouvoir, qui détient l'information, détient le pouvoir. Et donc, il faut surfer sur la désinformation pour écarter ou alors pour dévier complètement le regard de la société sur la gestion des politiques publiques. Et donc, il se trouve que dans ce cadre-là, la politique, dans le cadre la désinformation occupe le haut du palier, et donc que la plupart des désinformations, notamment du point de vue des caractéristiques ou du point de vue des principes, est davantage liée aux questions politiques et aux questions ethniques au Cameroun.
Dans le reportage qu'on a suivi, le correspondant semblait dire que les acteurs de cette désinformation viennent notamment ou bien sont de la diaspora camerounaise. Tout à l'heure, on va expliquer comment vous en êtes arrivé à cette conclusion. Mais avant, Samba Djalim Pabadi, on veut comprendre avec vous comment fonctionne d'une manière générale l'industrie de la désinformation.
Merci Alexandrine pour une petite précision rapidement. Je suis à l'université d'Oslo Met, qui est la deuxième université d'Oslo, à côté de l'université d'Oslo, qui est la première. Alors, la désinformation, alors il faut préciser que ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça a toujours existé depuis que l'humanité existe. Mais je pense que ce qui est nouveau aujourd'hui, on le dira jamais assez, c'est la technologie qui permet de partager avec une plus grande vitesse le contenu de désinformation, mais aussi de toucher un maximum de personnes possible. Donc aujourd'hui, c'est bien de parler d'une industrie parce que les contenus visant à manipuler l'opinion peuvent être créés à un niveau industriel, c'est-à-dire à une quantité démesurée et être partagé facilement sur les réseaux sociaux. Quand on prend un outil comme WhatsApp, c'est un outil sur lequel on peut partager très facilement du faux contenu et qui va se répandre de groupe en groupe. C'est la même chose avec d'autres outils comme TikTok et aujourd'hui avec la facilité de créer de fausses vidéos, la facilité de créer de fausses photos, on voit un peu dans quoi on se trouve, où la désinformation c'est industrialisé et elle est aussi utilisée sur le champ politique, comme le disait tout à l'heure Paul Joël, mais aussi sur beaucoup de domaines. Aujourd'hui, quand on regarde les pays où il y a des conflits, on voit très bien comment la désinformation est utilisée sur les plateformes pour essayer peut-être de gagner de l'adhésion, mais aussi pour essayer de semer la confusion. Et elle vise aussi les médias. Je pense qu'aujourd'hui, la désinformation est un danger pour les journalistes, et beaucoup de journalistes aussi malheureusement tombent dans le piège de la désinformation. On a vu récemment Jeune Afrique a été obligé d'écrire un article pour expliquer comment ils ont été piégés par une personne au Mali pour les amener à traiter une information d'une certaine manière. Donc il faut aussi préciser que les journalistes parfois sont des acteurs de la désinformation.
Et les conséquences néfastes sont dévastatrices sur le plan sanitaire, politique, ou social d'une manière générale. Sadi Boumaran, votre dernier rapport, le dernier rapport de RSF, l'a bel et bien révélé, et vous parlez d'une implication de certains États dans cette campagne de désinformation massive. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Vous avez cité le Mali parmi les pays qui feraient recours à cette pratique. On ne vous entend pas, malheureusement, Sadibou.
Oui, fondamentalement, nous pensons que dans les États en proie à des conflits ou des menaces sécuritaires, comme c'est le cas du Mali ou du Burkina, de plus en plus, il y a l'émergence de ce qu'on pourrait considérer comme des officines de la désinformation, entretenues par les jeunes au pouvoir, et aussi, comme on le voit, qui développent souvent des contenus dénigrants et également avec souvent des motifs très fallacieux contre les médias, mais également contre toutes les autres personnes qui sont supposées avoir une voix dissidente ou des opinions contraires à celles de la junte. Ça, on le voit au Mali et on le voit aussi au Burkina, ça émerge de plus en plus. Et la possibilité également d'utiliser souvent des artifices de l'intelligence artificielle pour créer, par exemple, de fausses vidéos et pour s'en prendre à des médias. On a vu cette campagne de dénigrement juste au mois de mars contre trois journalistes locaux au Burkina qui avaient été, accusés d'avoir aidé des journalistes de la presse internationale qui avaient révélé ce massacre-là, Karma. Et que ces journalistes, dans le cadre d'une vidéo qui était une factice, avaient été carrément ciblés énormément et, comme on dit, name and shame, entre guillemets. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça met à rude épreuve la sécurité des journalistes d'une manière générale. Mais également, ça entretient ce qu'on appelle la culture du fake et la propagande et au-delà de cela. C'est de plus en plus quelque chose qui est réel, qui prend de l'ampleur. On le perçoit dans d'autres pays comme la RCA, la République centrafricaine. On peut descendre beaucoup plus bas pour aller bien monter vers la partie est du continent pour le percevoir également. Quand il y avait cette guerre du Tigré entre l'Éthiopie et les Tigrés, tout cela, on le percevait également. Et souvent, l'enjeu, et c'est également c'est dans le cadre du contrôle du narratif. Le contrôle du narratif, disons, de la propagande, chaque parti essaie un peu de contrôler l'opinion en mettant en place ou en diffusant des informations qui sont carrément fondamentalement fausses et souvent également en utilisant contre des journalistes, si c'est le cas de la presse, un peu des informations qui sont en mesure un peu d'entamer leur sécurité d'une manière générale. Et c'est extrêmement dangereux.
Je retourne vers vous, Paul Joël, au Cameroun. Simple question, comment reconnaître qu'une information est trop belle pour être vraie?
Écoutez, il y a au moins trois principes qui guident justement la détection de la mauvaise information. C'est déjà le caractère est beau, auquel vous faisiez allusion tantôt, c'est le caractère viral, mais également il faut identifier la source. Vous voyez, généralement, la source est un peu très connue, c'est parfois des journalistes, exactement comme les précédents orateurs disaient. Et donc, le fait que ce soit un journaliste, tout le monde se fie à ce qui pourrait être une information, entre guillemets, pour la passer pour parole d'évangile. Et puis, il y a également le caractère viral, je disais tantôt, mais également l'impact que cela pourrait avoir sur l'opinion. Donc, il faudrait bien sûr aller en appendice de toutes ces analyses et de cette checklist, essayer de comprendre en fait que derrière, il y a tout un jeu ou toute une envie de contrôler la pensée, de contrôler l'opinion ou de contrôler carrément une forme ou une façon de penser la société. Donc voilà un peu ce qui arrive. Et puis, vous voyez, à côté de ce côté, il y a également que c'est majoritairement véhiculé pour les groupes WhatsApp, dans les groupes les plus courus ou alors dans des groupes sur Facebook. Vous savez, de plus en plus, on a des groupes parfois fermés ou ouverts qui prospèrent sur Facebook et qui sont qualifiés pour être des groupes de propagation de désinformation. Au Cameroun, vous avez un groupe comme Parle que Petit, qui est un groupe où la désinformation prolifère à longueur de journée et malgré les appels de Facebook à se pencher sur ce cas, rien n'y fait. Et donc, c'est par exemple plus de 250 000 personnes qui vont s'abreuver tous les jours avec tout ce qu'il y a comme conséquence.
Et on va parler tout à l'heure des législations qui existent pour contrer ces campagnes de désinformation. Les journalistes jouent leur partition déjà avec des plateformes de fact-checking qui se multiplient. On note le travail de Africa Check avec vous, Samba Djalimpa Badji. Comment choisissez-vous les sujets ou déclarations ou publications sur lesquelles vous apportez vos éclairages?
Alors, je pense que dans les médias qui font du fact-checking, on fonctionne comme des journalistes. Donc, on a des conférences de rédaction, des réunions de rédaction pour choisir des sujets. Mais je pense que dans le choix des sujets, on essaie aussi d'éviter cet effet pervers de mettre au devant de la scène des informations fausses qui ne mérite pas d'être sur l'espace public. Donc, nous mesurons d'abord l'impact potentiel de l'information, l'impact que cela peut avoir au sein de l'opinion. Il faut aussi que cette déclaration ou ce contenu ait un rapport avec ce qu'on va appeler l'intérêt public. Il faut que ça ait un intérêt public certain pour qu'on s'intéresse à ce contenu-là, que ça soit une déclaration, une photo ou une vidéo pour faire de la vérification. Parfois, la viralité peut expliquer, c'est-à-dire un contenu peut ne pas avoir un intérêt public direct, mais a une telle viralité que il devient important de se pencher et de vérifier. Donc, en gros, ce sont ces différents critères-là, c'est-à-dire l'intérêt public, l'impact potentiel sur le débat public, mais sur la communauté, mais aussi la viralité. Et comme je l'ai dit, dans les rédactions, ça se discute. Est-ce que ce sujet mérite d'être vérifié ou pas? Et on y travaille.
Est-ce que vous avez parfois des réactions de la part des auteurs de ces publications suite à votre fact-checking? Est-ce que vous avez parfois des réactions des auteurs?
Oui, il nous arrive d'avoir des réactions parce qu'une des politiques qu'on a à Africa Check était d'avoir ce qu'on appelle une stratégie à 360 degrés. Pour nous, juste faire du fact-checking et se limiter à dire c'est vrai, c'est faux, pour nous, ça ne peut pas avoir de l'impact. Donc, on se rapproche des personnes, en fait. Quand on vérifie une déclaration, un contenu, on se rapproche des personnes après avoir trouvé le résultat pour leur dire, vous aviez dit ceci, nous avons trouvé que, par exemple, si c'est faux, nous avons trouvé que c'est faux. Est-ce que vous pouvez faire une rectification publique, une correction publique? Il arrive qu'il y ait des gens qui le font. On a eu quelques exemples de personnes, personnalités, d'acteurs politiques qui ont fait des corrections publiques en disant « Ah, nous nous sommes trompés sur ce sujet-là ». Bon, d'autres ignorent complètement. Parfois, il y a des réactions plus ou moins hostiles. Mais oui, il nous nous arrive d'avoir des réactions assez positives de personnes qui font des corrections publiques. Mais jusque-là, ce n'est pas encore un niveau qu'on aurait souhaité pour que cela puisse avoir de l'impact. Parce que je pense que normalement, quand on se trompe, on fait une erreur, on doit accepter de corriger cette erreur-là. Sauf que dans l'écosystème de la désinformation, parfois ce ne sont pas que des erreurs. Parfois ce sont des actes délibérés qui visent à induire l'opinion en erreur ou qui visent tout simplement à nuire des communautés.
Et donc de la désinformation volontaire.
De la désinformation et de la manipulation volontaire.
Et avant de poursuivre, voyons ce que pensent les internautes de cette prolifération de fausses informations sur les réseaux sociaux. On a Yao Marcelin Kofi à Abidjan qui nous dit que lutter contre la désinformation et garantir un accès à une information de qualité et fiable relève parfois du parcours de combattant à cette ère du numérique. Avec juste une connexion Internet, on peut déstabiliser une institution, un État. C'est pourquoi il serait judicieux de s'abonner à des sites fiables tels que les sites gouvernementaux et ceux des professionnels des médias où l'information est vraie. Alphonse Mbouaki, à Kinshasa, en tant qu'instrument d'influence politique, la désinformation n'a rien de nouveau étant donné qu'il est aisé de rompre la confiance sur Internet, mais difficile de la regagner. Les entreprises du secteur doivent coopérer avec les États sur cette question. Les plateformes en ligne ont en effet un rôle à jouer dans la lutte contre les campagnes de désinformation organisées par des personnes et des pays dont l'objectif est de mettre la démocratie en péril. Il faut suivre de près les progrès accomplis et éventuellement proposer de nouvelles mesures dans un proche délai, notamment des mesures de nature réglementaire en cas de résultat. Et notre dernier commentaire, Lasgasek, qui nous dit « De nos jours, il est très difficile pour un usager des réseaux sociaux de faire la différence entre une bonne information et un fake news. D'aucuns disent même que lorsqu'un homme ne lit pas la presse, il n'est pas informé. Et lorsqu'il lit les journaux, il est mal informé. » Alors, on va revenir juste après cette courte pause pour vos commentaires, si vous en avez.
Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons des nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connaissons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité.
Sur les réseaux sociaux et de ses conséquences sur les individus avec nos invités, Paul-Joël Kamchang, éditeur de la plateforme Data Cameroun au Cameroun, qui nous rejoint de Douala précisément. Sali Boumaron, responsable bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Et Samba Djalimpa Badi, journaliste et chercheur. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une perte de confiance dans les médias? C'est la question que je veux poser à Sali Boumaron.
Bon, ça, fondamentalement, ça dépendra un peu de là où on se trouve. Bon, je pense que de plus en plus, il y a une certaine partie de l'opinion qui avance cette idée et qui essaie de la défendre. Et il y a également une autre partie, une partie également très importante, qui pense que les médias, jusque-là, continuent à faire le rôle d'informer. Souvent d'être déduqué et peut-être de distraire. Mais ce qu'il faut en retenir, je pense que les relations qu'on avait avec les médias du point de vue un peu en termes de médias classiques ou bien de médias traditionnels, radio, télé, et journaux. Probablement, ça a changé parce que l'information, souvent, ça va très vite. Et l'utilisation aussi des réseaux sociaux semble être une concurrence, je ne dirais pas déloyale, mais peut-être une concurrence réelle qui est là et qui tend un peu à diminuer un peu l'importance de la perception qu'on pourrait avoir des médias. Mais nous estimons fondamentalement que les médias restent traditionnels, les médias traditionnels restent. Et ce qui est le plus important, c'est la qualité de l'information qu'on retrouve dans les médias en termes d'informations dignes d'intérêt pour le public connaissant ses services. Et que cette information-là soit une information de qualité juste et vraie, qui répond aux normes, aux standards dans ce qu'on considère comme le journalisme, et de journalisme aussi indépendant. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça, fort heureusement, on le retrouve dans les médias, que ce soit qu'il s'agisse de la télé, de la radio et des journaux. Mais on le retrouve également dans certains médias qui sont plus des médias en ligne. Et on perçoit aussi l'utilisation que les médias traditionnels aussi peuvent faire des réseaux sociaux en termes de diffusion de l'information, la possibilité d'annoncer quelque chose très rapidement dans les réseaux sociaux, que ce soit pour les réseaux Facebook ou Twitter, et puis en revenir aussi de manière beaucoup plus explicative un peu dans l'édition du journal. Ça également, c'est des valeurs ajoutées. On n'est pas fondamentalement en termes de concurrence, mais la qualité, c'est ce qui est le plus important. Et les peuples africains, je pense qu'ont besoin d'informations, mais d'informations de qualité.
On n'a malheureusement plus assez de temps. Sadibou Marron, une dernière question pour Samba Djalimpa Badji et Paul-Joël Kamtchian. La lutte contre la désinformation sera-t-elle gagnée ou pas?
Gagner, je ne sais pas dans quel sens, mais je voudrais juste rebondir sur la dernière question. Oui, la perte de confiance des médias, elle est réelle, ou pour être plus indulgent, il y a une défiance vis-à-vis des médias, ça c'est réel, et les médias doivent se remettre en cause quelque part. Alors, est-ce que on peut lutter efficacement, c'est ça la question, contre la désinformation? Tout dépend. Si on pense à mettre fin à la désinformation, je pense que c'est une illusion. On ne va pas y arriver, ça ne servirait à rien. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire de sorte que d'abord les médias reviennent aux standards et remplissent leurs fonctions, mais aussi outiller le public à pouvoir avoir quelques compétences qui leur permettent de vérifier les sources des informations, la fiabilité des informations qui leur viennent. Mais mettre fin à la désinformation, c'est une illusion.
Je vous remercie Samba Djalimpa Badji et fan de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent et sur notre site voafrique.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Merci à toute l'équipe de production et à très bientôt.
À la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA.